7h30, 9h30, Radio MDM.
Anthony Lecoq, le jour se lève encore.
Le jour se lève encore.
Le jour se lève encore à Saint-Pierre-du-Mont avec cet appel aux dons pour l'Ukraine lancé par une Saint-Pierroise. Elle s'appelle Eva Diedudziki. Elle est membre de la fondation Missi Medichna, traduisée mission médicale, co-créée en Pologne en 2012 par son propre cousin, Henri Bojtuk, prêtre jésuite et médecin urgentiste pour soutenir donc des migrants, dans un premier temps en provenance de l'ex-bloc de l'Union soviétique depuis l'invasion de la Crimée en 2014, puis de celle du sol ukrainien en 2022 par les troupes de Vladimir Poutine. La fondation collecte des médicaments auprès de professionnels et de particuliers au Pays Basque et dans les Landes pour les acheminer sur place auprès de soldats et civils ukrainiens, lesquels manquent en effet de tout, pansements, désinfectants, mais aussi produits de puériculture et d'hygiène pour nourrissons. Alors si l'élan de solidarité, notamment en don de vêtements, a été dans un premier temps exceptionnel, remerciements particuliers d'ailleurs à Régis Hargues et à la Fédération des chasseurs landais, eh bien, le souffle de la générosité est depuis retombé légitime, selon Eva Diedudziki. C'est le grand entretien du jour.
MDM. Tout un monde.
On est constamment sous le feu de nouvelles épouvantables, de besoins humanitaires dont on ne sait plus où donner de la tête. Et effectivement, je comprends très bien qu'on puisse se lasser. D'autre part, une fois qu'on a fait le tri et qu'on a donné ce qu'on avait à donner, c'est pas éternel non plus. Donc oui, je comprends qu'on puisse se lasser. Il y a aussi peut-être un effet un peu civilisationnel, tendance zapping, et puis il y a l'effet des médias. C'est vrai que les grands médias, la guerre en Ukraine, à part LCI, plus personne n'en parle.
Enfin, ouais.
C'est vraiment plus une actualité, en fait, concrètement.
Effectivement, on passe d'un conflit à un autre, comme on passe
d'un
sans transition.
Voilà.
C'est le grand
sans transition, exactement.
La grande expression.
Et on passe d'un conflit à un autre, et on passe d'une catastrophe naturelle à une autre, et on passe, enfin, on ne sait plus où donner de la tête.
Ouais. Il se trouve que les besoins ont évolué sur place avec le conflit qui s'est enlisé, les modes d'armement, les blessures, de plus en plus de plus en plus de combattants et donc de plus en plus par extension de morts et donc de blessés. Et du coup, désormais, c'est du matériel de soins qui est privilégié.
Alors, en ce qui me concerne, mais aussi c'est une question de logistique, j'ai pas les moyens de transporter des grosses choses, nous ne travaillons que et uniquement sur l'aide médicale. Effectivement, la collecte qui a été relancée par monsieur le maire de Saint-Pierre-du-Mont ne concerne que le médical et le matériel de puériculture. Biberons, lait maternisé, couches. Et dans les zones de front, sont quasiment inaccessibles.
Ouais.
C'est un peu difficile à imaginer vu d'ici et vu de notre fenêtre.
C'est assez glaçant d'entendre les mots, voilà, les maternelles, je vois des prothèses.
Les prothèses, c'est encore un autre sujet.
Ce sont des mots où on a des images, du coup, qui apparaissent de ce qui peut se passer. Et on est loin de la réalité, évidemment.
Et on est loin de la réalité. Alors, ce qui est important de s'imaginer, c'est qu'en fait, le front actuellement fait à peu près 1000 km de long, c'est-à-dire la distance entre Hendaye et Lille. Et une largeur d'impact quotidien d'à peu près 200 km. Donc on a une bande de 200 km qui est quasiment tous les jours pilonnée. Alors les zones de combat, strictement parlées, sont bien sûr évacuées, parfois de force. C'est une horreur, c'est quelque chose d'épouvantable, parce qu'il y a souvent des personnes âgées qui ne veulent pas partir.
Ouais.
L'artillerie est à 500 mètres, ça canarde tellement qu'on ne s'entend pas parler, que le sol tremble. Et ils refusent de partir, ils s'agrippent. Alors, c'est un crève-cœur d'arracher les gens au peu qu'il reste de ce qu'ils ont toujours vécu. Enfin, imaginez une de nos grand-mères landaises, des ambulanciers viennent et veulent la mettre de force dans une ambulance et elle sait qu'elle reverra jamais sa maison, son chien. Enfin...
D'abord sur la nécessité des produits nécessités, là, une collecte qui est organisée, donc, on le disait, dans le hall de la mairie de Saint-Pierre-du-Mont.
Alors, la mairie de Saint-Pierre-du-Mont...
De quoi vous avez besoin pour promener là-bas?
Tout ce qui sert à soigner, tout simplement. Tout ce qui sert à soigner. Ça va des orthèses aux antibiotiques, en passant par les bandages, les pansements, les tout.
Ça veut dire que concrètement, il y a des gars qui restent sur le front avec des plaies pas soignées.
Alors, des plaies pas soignées, on essaye toujours plus ou moins de les soigner, mais c'est clair que il y a des situations où on fait des garrots avec des vieux draps.
Ouais.
Ou des t-shirts déchirés, autant vous dire que c'est pas très efficace. Bon, le problème des garrots, c'est qu'ils sont très difficiles à obtenir, et même ici, j'arrive pas à en avoir. Ça, S'il y a un hospitalier qui m'entend et qui peut fournir des garrots, on est preneur. Il y a eu d'ailleurs plusieurs cas de soldats qui sont morts d'exsanguination parce qu'ils avaient des garrots défectueux qui ont lâché pendant le transport. Globalement, on a besoin de tout ce qui sert à soigner, tout simplement. D'ailleurs, il y a aussi le matériel le plus lourd, c'est-à-dire les fauteuils roulants, les lits médicalisés, toutes ces choses qu'on a parfois à la maison parce qu'une personne décède à la maison et ça reste. Ça, c'est récupéré par une organisation basque qui s'appelle l'AIMA. Alors, leur siège est à Osserin, mais ils ont un hangar humanitaire à Salis de Béarn. Il suffit juste de les appeler. Ils ont un fourgon qui vient collecter. Donc, si vous avez du matériel comme ça, s'il vous plaît, contactez l'AIMA.
On va tâcher de vous mettre tous les liens sur les réseaux avec votre podcast. Pour les enfants, notamment, pansements, désinfectants. Et donc, pour également du matériel de puériculture, pour les plus petits, produits d'hygiène et pour les nourrissons.
Produits d'hygiène d'une manière générale aussi. Une chose, un petit détail sur les dates de péremption. Eu égard au fait que les dates de péremption sont vraiment faites avec beaucoup de réserves, on considère que tout ce qui est périmé de moins d'un an est acceptable et passe la frontière, en fait, parce qu'il y a aussi ça, c'est les règles de passage de frontière.
Ça commence à savoir entre la DLC et, et le périmé, le delta qui peut avoir entre
les deux. Il y a un delta, et donc ce delta, on l'absorbe tout simplement parce qu'on ne peut pas se permettre de jeter du matériel qui est périmé de 3 jours, alors qu'en réalité, il est parfaitement utilisable et parfaitement utile. Ce qui m'amène de nouveau, maisons de santé, hospitaliers et ainsi de suite, vous qui ne pouvez pas utiliser un matériel même périmé de 3 jours, s'il vous plaît, donnez-le nous.
Tout ça, ce sera acheminé donc par vos soins, Eva, parce qu'on a quand même, on n'a pas précisé une chose aussi, c'est que vous, sur le terrain, vous agissez aussi, puisque vous êtes psychotraumatologue de profession et que vous êtes amené à travailler.
Effectivement, j'avais commencé déjà à travailler sur le traumatisme de guerre avant cette déclaration de guerre, tout simplement parce que j'avais parmi mes patients quelques militaires. Et donc, j'avais commencé à faire une spécialisation et que j'ai dû approfondir un peu vite, vu la situation, parce que le traumatisme psychologique dans lequel sont plongés autant les soldats que les civils est assez effrayant. Et ça présage d'une catastrophe sévère au moment où la guerre s'arrêtera. Pour l'instant, tout le monde tient un peu à l'adrénaline.
Ouais, parce que comment est le moral depuis novembre? Je pense évidemment à l'élection de Donald Trump, l'humiliation de Zelensky à la Maison-Blanche. Trump, dont on sait qu'il est le jouet de Poutine. Poutine qui souffle le froid et le glacial.
Tout ça n'est pas aussi clair que ça en a l'air. Je vous dirais sincèrement que l'élection de Trump a même suscité certains espoirs pendant un moment.
Les espoirs ?
Oui. Oui, parce qu'il y a quand même une bonne partie de la population qui n'en peut plus de cette guerre et qui espérait vraiment qu'il puisse tout simplement l'arrêter. Qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'on arrête de nous tirer dessus, en fait. Difficile à imaginer ça. Là, on rentre dans des conditions, dans des considérations politiques qui ne sont pas du tout mon métier. Très honnêtement, je n'y connais pas grand-chose à la politique.
On commence à comprendre aussi que Poutine n'a aucun intérêt, surtout pour son peuple, à arrêter la guerre.
Oui et non. En réalité, s'il aimait son peuple, bien sûr que si, il aurait intérêt, puisqu'il envoie à la boucherie ses jeunes d'une façon absolument... Quand les soldats ukrainiens, les officiers racontent ce qui se passe sur le front, sur le fait qu'il leur arrive dessus 5 Russes, dont 2 sont armés, et les 3 autres ont des pelles à la main. Ils n'ont même pas de fusil. Et il les dégomme les uns derrière les autres. Actuellement, on estime que pour 150 personnes touchés, c'est-à-dire morts ou blessés côté ukrainien, il y a 1500 Russes. Donc, bien sûr que si, Poutine aurait intérêt à arrêter. C'est de la chair à canon. Et bien sûr que oui, il aurait intérêt à arrêter cette guerre, pour cette raison. Mais il y a tout un tas d'autres raisons qui font qu'il ne veut pas l'arrêter.
Ouais.
Donc,
mais une partie du peuple ukrainien n'en peut plus, concrètement.
Mais il y a tout simplement une partie qui est complètement au bout du rouleau. Alors, je ne vous dis pas qu'ils veulent que ça s'arrête à n'importe quel prix.
Oui.
Mais effectivement, ils sont prêts à certaines concessions parce qu'ils sont au bout du rouleau, parce qu'ils se font tirer dessus à longueur de journée, parce qu'ils n'ont plus d'eau, plus d'électricité, parce que l'approvisionnement des magasins est quasi inexistant dans certains endroits, parce que les sirènes hurlent tout le temps et que quand pendant 3 ans, on n'a pas une seule nuit de sommeil normal, ben, y a un moment où on disjoncte complètement. Enfin, ouais. Faut quand même s'imaginer les conditions dans lesquelles ils vivent, tout en continuant à essayer de travailler, tout en continuant à essayer d'étudier, tout en continuant à essayer de faire tourner ce pays. La personne avec qui nous travaillons, Marietchka Petrovna, il faut que j'en parle un peu parce qu'elle est extraordinaire, cette fille. Elle s'est portée volontaire au tout début de l'invasion. Elle est devenue première adjointe du chef de district pour Kiev, pour la défense territoriale. Elle est aujourd'hui officier supérieur, responsable des bataillons de femmes, responsable des femmes au sein de l'armée ukrainienne. En même temps, elle est professeure en psychologie et elle est présidente de l'Ordre des psychologues ukrainiens. Et c'est avec elle que je travaille sur la mise en place des formations, sur la prise en charge d'urgence en fait, des traumatismes de guerre. Et Marietchka a organisé, enfin elle a évacué 35 000 personnes durant les 15 premiers jours de guerre en organisant avec un transporteur laiton. Elle coordonne aussi la Ligue des Femmes au niveau du pays entier. Et la Ligue des Femmes, c'est une institution assez particulière parce que dans chaque ville, ils ont un bureau où ils ont des aides différentes, théoriquement destinées aux femmes qui se retrouvent en difficulté et qui sont devenues des bases humanitaires. Et Marietchka, à part ça, est chef d'entreprise. Elle a hérité d'une entreprise d'orfèvrerie. Elle a installé les bureaux de la Ligue des Femmes dans l'immeuble à Kiev où elle est. Cet immeuble a déjà perdu ses fenêtres 6 fois. Systématiquement, tout est reconstruit, tout est rénové et tout fonctionne. Il y a une espèce d'opiniâtreté et de volonté de survie qui est difficile à imaginer. C'est de la rage de survie. C'est difficile à imaginer pour les mollassons que nous sommes devenus, franchement. Et je m'inclus dedans parce que.
Je vous permets pas.
Je passe 15 jours là-bas, je suis déjà au bout du rouleau.
Ils sont tout le temps et ils tiennent. Je vous permets pas, vous allez repartir là-bas très prochainement. Vous avez déjà un calendrier vous attendez. Alors, et on espère qu'ils seront généreux.
Il y a d'une part, voilà, les dons. Donc, j'attends d'avoir de quoi charger le fourgon pour pouvoir repartir. J'ai fait des formations dans des écoles pour des instituts, pour qu'elles arrivent à prendre en charge la panique des enfants, par exemple. Et donc, on organise des séries de formations comme ça. Donc, cet été, j'en ai 6 semaines. Je n'ai pas les dates exactes encore, mais voilà, je vais passer 6 semaines là-bas. Là, dans le courant du printemps, normalement, je devrais y repartir aussi pour une 15aine de jours. Et donc, j'essaye d'en profiter à chaque fois que j'y vais pour faire un transport et emmener en même temps ce qui a été récolté. De manière à ce que ça parte. Et donc, quand j'emmène en Pologne. Et en Pologne, c'est pris en charge par la fondation Rumanosh, avec laquelle on a une collaboration, parce qu'eux peuvent passer la frontière très facilement en ambulance, en emmenant tous ces produits. Alors que sinon, c'est des paperasseries absolument invraisemblables, qui sont justifiées, parce que malheureusement, l'aide humanitaire a donné lieu aussi à pas mal de trafic.
Comme à chaque fois, malheureusement. Pour celles et ceux qui ont jamais mis un pied dans la mairie, tout simplement, de Saint-Pierre-du-Mont, les horaires d'ouverture assez classiques, on va tout vous mettre en lien.
Aucune idée, mais tout est sur Internet, je suppose.
On va tout vous mettre en lien, et vous partirez pas toute seule en Pologne. Il y en a un qui est sous la table, là, qui est sage.
Celui qui est sous la table est effectivement un personnage particulier. C'est un patou basque qui s'est avéré avoir un talent extraordinaire pour la communication avec les enfants. Et donc, il vient travailler avec moi puisqu'il m'aide à entrer en communication avec des enfants quand ils ont été très gravement traumatisés et souvent rendus complètement muets et complètement enfermés dans leur terreur. Et effectivement, il arrive à faire un travail de liaison qui est assez extraordinaire.
Tel chien, tel maître, si vous me permettez. Telle maîtresse.
Merci. Je ne me sens pas très maîtresse. Il a un peu tendance à faire ce qu'il veut, mais bon.
Merci beaucoup, Eva.
Avec grand bonheur.
MDM. Tout un monde.